6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et nous sommes raccord puisque vous allez, dans les enjeux internationaux, parler de la Chine et notamment des échanges commerciaux avec l'Europe.
C'est ça, la Chine, l'Europe, le monde et ce nouveau multilatéralisme fort, c'est ce que professe désormais le président Macron en recevant depuis lundi le président chinois Xi Jinping, donc aujourd'hui à l'Elysée, avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker pour afficher un front uni européen. Après des accords importants pour Pékin en Italie et à Monaco, c'est la France qui en bénéficie et qui voudrait parler pour l'Europe. Alors, peut-on être euro-chinois, comme le disait Emmanuel Macron? Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI, co-auteur de La Chine et EST Le Monde chez Odile Jacob avec Emmanuel Dubois-Duprisque. Alors Xi Jinping là est en France, mais d'abord en Europe, après l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Europe centrale, les Balkans. Cette fois c'est donc l'Italie, Monaco, la France, en gros la Riviera. Juste sur ces trois pays, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis ensemble? Ils sont assez différents sur le plan politique justement, ou parce qu'ils sont homogènes sur le plan géographique?
Oh, écoutez, là, je crois que c'est le fruit du hasard d'avoir associé ces trois pays. L'Italie, c'est assez particulier. Je crois que l'Italie avait été repérée, évidemment, comme un ventre mou depuis quelques années. Et donc, dans un ventre mou, on rentre plus facilement. C'est la raison pour laquelle c'est le pays qui avait été ciblé pour signer le premier, le fameux document, le fameux mémorandum sur les routes de la soie qui a été signé donc dimanche dernier. Et c'est un grand succès pour le président Xi Jinping, puisqu'il annonce que c'est le premier pays du G7 qui aujourd'hui s'associe de façon très intense, très dense, très affichée au projet du président chinois.
C'est ça, et c'est Italie ventre mou parce que en besoin financier assez important. Il faut quand même noter, c'est assez étonnant, la prudence des propos à la fois de Xi Jinping et de Giuseppe Conte concernant ces accords. Giuseppe Conte insiste, il dit que c'est non contraignant, et c'est à ce moment-là que Xi Jinping parle de route de la soie à double sens. C'est donc qu'il a bien conscience, disons, d'une certaine inquiétude européenne en venant
oui,
en Italie.
Il a en tout cas tout à fait conscience d'une réserve. Alors cette réserve, elle est due à plusieurs choses. D'une part, les Européens sont effectivement dubitatifs sur ce projet, et d'autre part, les pays qui se sont associés de façon très proche de la Chine, notamment la Malaisie, le Sri Lanka, les Maldives, le Pakistan, commencent à contester l'intérêt et le bénéfice réciproque de ces routes de la soie. Donc, il est évident que pour Xi, la partie n'est pas facile, et il a annoncé à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs fait la même tentative de séduction de l'opinion publique en publiant un grand texte dans le Corriere della Sera pour rassurer, pour séduire les Italiens et les engager à travailler de façon plus active avec la Chine.
Et ce qui n'empêche pas, comme vous l'avez dit, que voilà un vrai pied effectivement de la Chine, enfin les autres sont vrais aussi, mais en Europe et de ces routes de la soie avec l'Italie. Et puis également Monaco, là une annonce quand même qui est une première mondiale qui passe un peu inaperçue parce qu'il s'agit de 2 km², mais Monaco sera la première plateforme 5G Huawei au monde finalement.
Exactement, c'est le premier territoire étranger test pour le déploiement de la 5G, donc c'est essentiel, c'est très symbolique là aussi pour le président chinois, et donc il est essentiel, si vous voulez, que cette étape-là soit réussie, parce que si c'est un échec, il est évident que les autres pays ne suivront pas, alors que si cela fonctionne bien, ça sera évidemment une motivation de plus pour s'engager, je dirais, dans la dynamique chinoise.
Et vous parliez de cette méfiance européenne. Il y a eu également des propos des responsables, on va dire, économiques. Heiko Maas, le ministre allemand, ou Günther Oettinger, le commissaire européen au budget, qui voulait, lui, une stratégie digne de ce nom. Il y a également une sorte de réponse chinoise dans Global Times qui dit, finalement, en finançant certaines installations italiennes ou grecques à l'époque, on vient en aide à une Europe marginale. marginalisés dans l'intégration éco-régionale, à qui la Chine peut apporter un nouvel élan. Est-ce que ce discours peut porter auprès des dirigeants européens comme Emmanuel Macron, Angela Merkel ou Jean-Claude Juncker aujourd'hui?
Écoutez, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, personne ne s'intéresse de très très près aux problèmes italiens ou aux problèmes grecs, hein, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette crise. Donc, effectivement, les Chinois ont beau jeu de tirer leur épingle en disant « nous faisons quelque chose pour ces pays que vous délaissez ». Maintenant, il faut quand même être bien conscient que plus de 50% des investissements chinois en Europe se concentrent sur la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ce qui signifie que ce sont évidemment ces fleurons qui sont visés et non pas les pays, je dirais, délaissés par l'Union européenne. Donc on est d'accord sur le fait que le but, je dirais, de la campagne de séduction et du voyage du président Xi, c'est l'Europe industrialisée, innovante, créatrice d'emplois et d'innovation.
Et alors la France, justement, avec une bonne dizaine, on pourrait dire, d'annonces importantes, notamment ces fameux 35 milliards d'euros pour les 300 Airbus, dont on dit à 350, 290 à 320. C'est plus que ce qui était prévu déjà l'année dernière. Comme vous avez souligné, il y a effectivement un effort important aussi, plus 86% d'investissement en 2018 de la Chine en France. En quoi est-ce que ça témoigne d'une relation équilibrée euro-chinoise, disons, cette relation commerciale française, où on voit principalement la Chine acheter des outils, des machines françaises?
Ben, si vous comparez le commerce franco-chinois et allemand-chinois, sino-allemand, vous voyez les déséquilibres tout de suite qui apparaissent. Les Allemands ont un commerce beaucoup plus équilibré avec les Chinois, et l'objectif du président Macron est donc de rétablir un équilibre. Le président chinois l'a bien compris, il doit lui donner, je dirais, du gâteau, et donc ce contrat tombe à point nommé pour engager cette tentative de rééquilibrage du commerce français avec les Chinois.
Oui, pour rééquilibrer, parce qu'il y a déjà en fait des partenariats et une ligne de train entre Lyon et Wuhan en Chine,
oui,
dont on dit que
Lyon et Lille également. Hein,
voilà.
Et Wuhan et Lille.
Et alors, dont un rapport disait très sévère l'année dernière que 80% des trains repartaient à vide. Est-ce que c'est vrai?
Alors oui, c'est absolument vrai, mais c'est vrai parce que les Chinois, finalement, ne laissent pas rentrer les marchandises sur leur territoire, qu'il y a une multitude d'empêchements administratifs, de barrières non commerciales, non tarifaires, et donc ça gêne énormément, si vous voulez, l'importation de biens français. Donc il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que les Français ne veulent pas exporter en Chine, c'est d'abord parce que les Chinois mettent des entraves à ces exportations.
Oui, donc on est encore loin de ces routes de la soie à double sens, comme l'a
exactement,
exprimé.
Exactement, et gagnant-gagnant.
C'est ça. Alors, juste dernier mot, du côté européen, quelle stratégie pourrait être mise en place de ce point de vue-là pour, disons, essayer de filtrer, d'encadrer tout ce qui est investissement chinois? Donc, il y a un mécanisme en attente au niveau européen, mais il y a aussi la question de l'accès au marché, la propriété intellectuelle. Est-ce que aujourd'hui, tout à l'heure, les Européens vont pouvoir parler d'une seule voix? Est-ce que c'est un rôle qu'Emmanuel Macron va pouvoir tenir là?
Alors écoutez, en tout cas les Européens, Juncker, Merkel et Macron,
voilà,
vont parler certainement d'une seule voix. Je crois que le constat est le même partout. Il faut maintenant arrêter de jouer avec le feu et imposer des lignes rouges, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une convergence de vues entre les trois dirigeants. Maintenant, il y a deux questions. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les Chinois et est-ce qu'ils vont réussir à convaincre le reste des Européens? On voit bien que le fait que l'Italie ait signé les routes de la soie n'est peut-être pas très important sur le plan économique, effectivement, à ce jour, mais est très important sur le plan symbolique. Et les Chinois s'emploient à diviser les Européens. Donc la difficulté va être d'amener et les Chinois et les Européens à cette réflexion commune. Et donc pour essayer de trouver des points de convergence, il va falloir établir des partenariats sur des sujets d'intérêt commun, notamment le climat, l'OMC, la cybersécurité. Ça sera déjà un pas d'avance et un pas plus facile vers la solution des règlements sur des sujets plus complexes.
Donc en un mot, renforcer la Chine, y compris disons son potentiel de normativité, ce n'est pas incompatible avec renforcer le multilatéralisme, comme le veut Emmanuel Macron.
Exactement. De toute façon, le multilatéralisme est un bon choix sur des terrains qui concernent l'ensemble de l'humanité. Donc il va falloir trouver des réponses ensemble. On sera plus fort ensemble. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, l'autre point, c'est effectivement de sortir, si vous voulez, de ce jeu de dupes, comme l'appelle, et de ce jeu de dupes, avec les Chinois, et d'appeler un chat un chat, c'est-à-dire une réglementation qui n'est pas équitable, qui n'est pas réciproque, ne doit plus avoir lieu entre l'Europe et la Chine.
Eh bien, c'est dit, et on renverra à votre livre, Sophie Boisseau-Durocher, sur le site. Merci, la Chine, EST, le monde. Merci, bonne journée.